pendant ces 3 jours de Séchine. Nous avons fait un bout de chemin ensemble sur la voie. Sur la voie de l'éveil, sur la voie de la libération de toutes les causes de la souffrance. Et sur cette voie, que certains parcourent depuis longtemps, d'autres depuis peu, chacun rencontre des obstacles. Beaucoup, à cause de ces obstacles, se découragent, alors que ces obstacles font partie du cheminement. À condition de les considérer comme des occasions d'approfondir notre pratique. Pour cela, il faut les aborder avec sagesse. Une grande partie de l'enseignement du Bouddha à ses disciples était de leur transmettre cette sagesse. Par exemple, dans le deuxième sutra du Majjhima Nikaya, Shakyamuni aborde directement cette question des obstacles. Il dit « La destruction des obstacles est pour celui qui sait et pour celui qui voit. » Pour celui qui sait quoi et voit quoi. Pour celui qui connaît et voit la pensée sage et la pensée sans sagesse. Il ajoute, celui qui pense sans sagesse, alors pour lui, des obstacles qui ne sont pas apparus apparaissent, et les obstacles déjà présents s'accroissent. Par contre, en celui ou celle qui pense sagement, les obstacles non apparus ne paraissent pas, et les obstacles déjà présents décroissent. Et ensuite, il enseigne 7 grandes catégories de moyens pour remédier aux obstacles. Il y a des obstacles qui sont vaincus par le discernement, d'autres par le contrôle, d'autres par l'usage juste, d'autres par l'endurance, d'autres tout simplement en les évitant ou en les écartant, et enfin d'autres encore qui sont vaincus par le développement spirituel. Hier, pendant le Mondo, on s'interrogeait sur l'importance du discernement. Pour le Bouddha, c'était le premier moyen de vaincre les obstacles, d'accéder donc à la sagesse. Je vous rappelle que pour Maître Dogen, au début de son enseignement sur le développement de l'esprit d'éveil, rappelle que Bodhaishin, l'esprit d'éveil, provient du discernement. Donc aussi bien le Bouddha Shakyamuni que Maître Dogen donnaient une très grande importance au discernement, source de sagesse. En ce qui concerne le discernement, il s'agit de discerner les choses qui doivent être pensées et celles qui ne doivent pas être pensées. Celles qui ne doivent pas être pensées sont celles qui augmentent les attachements, les poisons de l'esprit, tels que l'avidité, la haine, l'ignorance, et les choses qui doivent être pensées sont celles qui diminuent, éliminent ces poisons de l'esprit. Donc, le Bouddha ne dit pas directement ce qu'on doit penser ou ce qu'on ne doit pas penser. Mais il invite justement au discernement, à réaliser chacun sa véritable sagesse, en observant ce qui se passe dans son esprit. Lorsqu'il pense, lorsque l'on pense à certaines choses, quelles en sont les conséquences? Est-ce que ça augmente nos attachements, nos illusions, les poisons de notre esprit, ou est-ce que ça les diminue? Et en apprenant ainsi à discerner par notre propre expérience les pensées favorables et celles qui sont négatives, on apprend peu à peu à éliminer les pensées négatives et à stimuler les pensées favorables. C'est le grand mérite du discernement. Shakyamuni fait remarquer que ceux qui n'ont pas ce discernement, qui n'ont pas cette capacité, se posent toutes sortes de questions inutiles, telles que est-ce que j'ai existé dans le passé? Est-ce que j'existerai dans le futur? Qu'est-ce que je vais devenir après ma mort? Et même dans le moment présent, ils sont pleins de doutes inutiles, perplexes, tels que, comme Hamlet, est-ce que je suis ou ne suis pas? Que suis-je? Est-ce que j'ai une âme immortelle ou pas? Ce genre de questions aboutissent à des spéculations, à ce que le Bouddha Shakyamuni appelait la jungle des opinions, le désert des opinions, la perversion des opinions, l'agitation, l'attachement aux opinions. Car finalement, ces questions métaphysiques n'aident absolument pas à résoudre la souffrance. Elles sont vaines, temps perdu. Et tant qu'on est ainsi attaché sans aucun discernement à ses spéculations, à ses opinions, pendant ce temps-là, on ne résout pas le problème fondamental de la naissance, de la vieillesse, des souffrances diverses de la vie et de la mort. Et finalement, le véritable discernement C'est ce qui a permis à Shakyamuni de réaliser ce qu'il appelait les quatre nobles vérités. Voir clairement ce qui est souffrance, ce que sont les causes de cette souffrance, ce qu'est la cessation de la souffrance, faire l'expérience, par exemple dans l'état de conscience Ishiryo Zazen, il y a réellement cessation de la souffrance, état de nirvana, d'extinction des poisons de l'esprit. Et enfin, compréhension de ce qu'est le chemin qui mène à cette cessation de la souffrance, qu'il appela l'octuple sentier. Donc le discernement est un facteur fondamental pour vaincre les obstacles. Les obstacles à l'éveil, les obstacles au véritable bonheur dans la vie. Les obstacles à une vie en harmonie avec le Dharma. Mais il n'y a pas que le discernement. C'est ceci qui est intéressant quand on étudie la pensée de Shakyamuni, son enseignement. C'est de voir que ce n'était pas une pensée unique. Il avait un sens aigu de la complexité de l'existence et donc il enseignait toujours différents moyens habiles pour aider les êtres à se libérer. Et par exemple, à propos de vaincre les obstacles, il disait encore que certains obstacles ne peuvent être vaincus que par le contrôle, c'est-à-dire par le contrôle des facultés des sens. Ne pas laisser nos facultés des sens nous égarer dans toutes sortes d'attachements. Par exemple, la faculté de la vision. Toute la journée, nous voyons toutes sortes de choses. Nous regardons toutes sortes de choses. Sans toujours nous demander qu'est-ce qu'il est bon de voir, est-ce qu'il vaut mieux ne pas voir. Tout ce qui pénètre notre esprit à travers l'organe de la vue imprime et laisse des traces dans l'esprit. Si par exemple on assiste à des scènes violentes, à des films d'horreur, il est évident que ça va laisser des traces dans l'esprit. Si on regarde des spectacles pornographiques, si on assiste à des corridas, si on aime regarder des combats, même si soi-même on ne participe pas directement à ces scènes, elles se gravent dans notre esprit. Et devient un poison. Lorsqu'on a observé cela, lorsqu'on en a fait l'expérience, par exemple, lorsqu'en faisant zazen, on se trouve soudain assailli par des images de spectacles violents, on se rend compte à quel point contrôler ce que l'on absorbe par la vue est important. Il en est de même pour tous les organes des sens. Écouter de bonnes paroles n'a pas du tout le même effet sur l'esprit que d'écouter des discours violents. De la musique de Mozart n'a pas du tout le même effet sur l'esprit que d'écouter de la musique techno, par exemple. Mais le Bouddha ne condamne rien a priori. Il nous invite simplement à expérimenter. Qu'est-ce qui se passe dans telle et telle expérience? Si vous constatez que ce genre d'expérience a un effet néfaste pour votre paix de l'esprit, pour votre libération de la souffrance, alors c'est un obstacle qui convient de surmonter par le contrôle de l'usage de vos organes des sens. De même, il y a d'autres obstacles qui peuvent être surmontés par l'usage juste, faire un bon usage des choses. Et là, il y a toute une sagesse pratique qui peut être acquise par l'expérience. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture, observer quels sont les effets des aliments qu'on absorbe. Se demander si on les absorbe seulement pour le plaisir, pour l'exagération de la vigueur, comme dit le Bouddha, pour l'esthétique, ou simplement pour, comme on fait le vœu dans le Bhusho Kapila, pour maintenir la santé de notre corps et nous permettre de pratiquer la voie. Là aussi, il n'y a pas de dogme bouddhiste sur la nourriture, mais une invitation au discernement, à l'observation, à la sagesse. Pareil pour l'habitation. Est-ce qu'on choisit son logement pour se protéger du froid, de la chaleur? Ou alors pour accroître son prestige? Chose pour les remèdes que l'on absorbe. Est-ce qu'on absorbe des remèdes pour se guérir de maladies? Ou au contraire pour stimuler son énergie? Il y a aussi des obstacles qui sont vaincus par l'endurance. Par exemple, le froid, la chaleur, la faim, la soif, le contact avec des animaux tels que les moustiques, le vent, le soleil. Développer sa capacité d'endurance libère de beaucoup d'obstacles. Aussi, les moines s'entraînent à être endurants. Non pas pour devenir des supermans, mais pour être libérés des obstacles, de certains inconvénients de la vie. Et puis, il y a une autre catégorie d'obstacles que l'on peut surmonter en les évitant, ou en les écartant. Maître Shimaru nous disait toujours, le véritable sage évite les situations dangereuses. Il ne va pas se fourrer dans des situations où il se met en péril, sauf, évidemment, pour venir en aide à quelqu'un. Donc vous voyez qu'il y a là, dans cet enseignement du Bouddha, tout un champ d'exploration, d'expériences à faire qui permettent de développer notre sagesse. Et ainsi d'éliminer les causes de beaucoup de souffrance. Et de permettre une vie beaucoup plus libre et harmonieuse. Zazen permet de développer son attention, sa lucidité, son intuition. Mais ensuite, dans la vie quotidienne, face à de nombreux phénomènes et situations que nous rencontrons, tous les obstacles qui se présentent, alors il y a autant d'occasions qui sont là comme des koans pour développer la sagesse en pratique. Si l'on considère la vie quotidienne comme le terrain, comme un terrain de jeu, un terrain sur lequel on peut exercer sa sagesse, afin de la développer et de développer les moyens d'aider les autres également, dans leur propre sagesse, alors la vie, de chaque instant, de chaque jour, partout, devient la pratique de la voie. Non pas un parcours d'obstacles décourageants, mais au contraire, stimulant.